tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
La gang, les bonnes chums de filles, merci d'être avec nous pour notre première saison officiellement.
Oh my god, est-ce que vous vous rendez compte qu'ensemble on marque un milestone, excusez l'anglicisme, mais je ne trouvais pas l'équivalent, faut y aller, faut enchaîner, on y va.
On a beau avoir plusieurs épisodes avant ça, c'est comme Jess le dit, c'est un milestone. Notre première saison, je suis tellement contente qu'on embarque dans cette aventure-là ensemble, dans cette stabilité-là ensemble, surtout. Je sais pas pour vous.
Ouais, vraiment. Puis pour nous aussi, c'est synonyme d'une stabilité mentale, d'avoir un peu plus de temps pour nous, de respirer un peu plus entre chaque épisode. Et éventuellement, pour vous, ça veut aussi dire, ben, des épisodes de qualité supérieure. Et parlant d'épisodes de qualité supérieure, ben, je suis certaine que c'est ce que Noémie nous réserve, parce qu'on va dire les vraies affaires avec Noémie. C'est toujours des épisodes de qualité supérieure.
Évidemment. Je suis fière de ce que je suis rendue, puis je suis fière de qui je suis. Fait que oui, avec Noémie, les épisodes sont toujours incroyables. That's it, that's all, basketball.
Vous l'aurez entendu ici en premier, mais surtout pas en dernier.
Comme on vous l'a dit sur notre post Instagram, si vous nous suivez sur Instagram, sinon vous savez quoi faire dans les prochaines secondes, minutes, heures. On va accepter dans les prochaines heures, mais surtout dans les prochaines secondes. Allez nous suivre sur nos réseaux sociaux, puis pendant que vous êtes là, allez nous donner une note sur Apple Podcasts, Spotify. C'est sûr qu'on aime plus les notes de 5 étoiles. Si vous voulez donner des notes moins que ça, on peut en parler, mais 5 étoiles, c'est le plus apprécié. Bref, encouragez-nous, aidez-nous à continuer le travail qu'on fait, puis à en faire plus. Ah oui, s'il vous plaît.
S'il vous plaît!
Bref, on va arrêter de vous gosser avec ça. Jess, est-ce que tu as une recette de cocktail, s'il te plaît, à nous proposer? J'espère que c'est beau, bon, pas cher, en plus de ça.
Tu nous connais à Crème et Cocktail, ma bonne chum de fille. On aime ça, les drinks, beau, bon, pas cher. Et surtout, plus beau, plus bon que beau. Non, plus bon que beau. S'il est beau pis il est pas bon, à poubelle. Fait que nous, ici, c'est toujours bon. En tout cas, on essaye, puis sinon, on est bien honnête. Fait que, en toute honnêteté, celui-là, il est très bon et il est très peu cher. Comme à notre habitude, on aime les cocktails simples à préparer, qui te font pas pleurer quand tu vois le prix des ingrédients. Alors aujourd'hui, on boit un Americano. Mais là, l'Americano, c'est pas l'Americano que tu commandes à ta barista. Écoute-moi 2 secondes. C'est un cocktail rafraîchissant et bien équilibré, parfait pour ceux qui se cherchent une boisson légère, mais pleine de caractère. Parce que vous l'entendez, caractère, c'est pas ça qui manque à Crème et Cocktail. Pour faire un Americano, vous allez devoir remplir un verre de glace et y verser 1,5 once de Campari et 1,5 once de vermouth. Vous allez compléter le tout avec du club soda. Certaines recettes vont conseiller 2 à 3 onces, mais faites bien ce que vous voulez. Une roue d'orange pour garnir. Et voici, voilà. Voilà, voilou. Vous avez votre Americano qui n'est pas un Americano du matin.
C'est quoi notre note?
Moi, je pense que je vais y aller pour un 6,5, peut-être 7. Ça peut-être continuer d'augmenter dans les prochaines gorgées, mais 6,5-7, ouais.
On est de retour dans les 6,5-7 à CC. Mais c'est difficile. Parce que ça me fait un peu penser au... c'est quoi le nom du cocktail que t'aimes tellement, que j'aime pas tant, mais que je commence à aimer depuis 2 ans?
Spritz!
Ça me fait un peu penser à ça. Je sais, est-ce que c'est bizarre? Ça me fait penser à ça.
Mais moi, ce que j'aime beaucoup du spritz, c'est l'aspect pétillant. Fait que moi, j'ai tout ce que j'aime pas du spritz en ce moment. J'ai comme l'amertume sans la pétillance. Fait que moi, il me faut de la pétillance pour de la préscience. Tu comprends, tu penses?
Mon TDAH a débarqué. Mais, OK, fait que c'est pas moi qui est folle. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un spritz sans le pétillant.
That's it, that's all, basketball.
Honnêtement, je sais pas si j'aime ça. C'est spécial pour moi comme cocktail, mais si vous aimez les spritz, go for it. Je vais donner un 7 sur 10. Ça va être ma note? Peut-être pas finale. On va voir au prochain épisode. Non, je pense que c'est ça, 7 sur 10. Je suis tellement instable. Je sais pas.
La fille est genre ascendant balance fois 1000.
Techniquement, je suis poisson, ascendant scorpion, puis ma... C'est quoi l'autre affaire? Je sais que mon autre truc, c'est balance.
Et c'est là qu'elle se manifeste, ma bonne chum, là.
Je sais pas si vous avez compris quelque chose, moi je n'ai rien compris, mais je pense que... Bref, 7 sur 10, essayez-le donc. On veut savoir votre opinion, puis on veut surtout savoir l'opinion des gens qui adorent le spritz. Est-ce que vous aimez ce cocktail-là?
Et surtout, on veut vos photos du cocktail parce que, ben, croyez-le ou non, on publie vos photos de vos cocktails que vous consommez si vous nous les envoyez en DM à Crème et Cocktail Podcast. Et sur ce, je dis cheers.
Chin, chin. Maintenant que la légèreté est dit et passée pour l'épisode, je vais juste faire un trop avertissement avant de commencer. L'épisode d'aujourd'hui aborde des thèmes particulièrement lourds et sensibles, y compris la souffrance, l'aide médicale à mourir, des dilemmes éthiques et des situations qui sont difficiles à entendre. Certains sujets explorés aujourd'hui peuvent être dérangeants et provoquer des émotions assez intenses. On vous encourage à écouter avec précaution et surtout, surtout, prioriser votre bien-être. Est-ce que t'es prête, Jess?
Je suis prête.
L'aide médicale à mourir, selon le gouvernement du Québec, consiste en l'administration de médicaments par un médecin ou une infirmière praticienne à la demande de la personne pour soulager ses souffrances en entraînant son décès. Ce soin-là, accessible à des hôpitaux, maisons de soins palliatifs ou à domicile, est soumis à des conditions de procédure extrêmement strictes pour s'assurer que le choix du patient est respecté et encadré. Le professionnel compétent doit respecter plusieurs obligations avant d'administrer l'aide médicale à mourir. Aucun professionnel ou aucune professionnelle de la santé ne peut ignorer une demande d'aide médicale à mourir. Depuis 2015 au Québec et 2016 à l'échelle fédérale, l'aide médicale à mourir est légale au Canada. À l'international, des pays comme le Pays-Bas, la Belgique et la Suisse ont adopté leur propre version de cette législation. Chacun avec des règles spécifiques. Par exemple, la Suisse, Jess, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours su que la Suisse était plus avancée que nous sur cette question-là, mais je savais pas que l'euthanasie active était interdite, mais le suicide assisté où la personne elle-même ingère un médicament est permise depuis 1942. Fait, juste pour rendre ça clair et précis, le rôle du médecin est limité à la prescription et la fourniture des médicaments, mais il ne doit pas administrer lui-même le produit létal, contrairement à ici au Québec.
Non, je ne savais pas du tout, surtout pas depuis 1942. Je pensais que c'était un débat des dernières années, pas mal l'aide médicale à mourir et tout ce qui entourait ça, là.
Moi aussi, puis comme j'ai dit, je savais que la Suisse était plus avancée que nous, mais 1942, la Deuxième Guerre mondiale, n'était même pas finie à ce moment-là, 1942. C'est quand même fou quand on y pense, là.
Comme tu l'as dit, les Suisses ont toujours de l'avance.
Bref, on va passer à un autre pays, aux États-Unis. Puis bien qu'on parle souvent, Crème et Cocktail, des États-Unis pour ce qu'ils font de mal, pas parce qu'on veut parler spécifiquement d'eux, c'est juste qu'ils nous donnent beaucoup de raisons pour le faire. Il y a certains États qui font des choses qui sont plus que bien. L'Oregon a été le premier État à adopter la Death with Dignity Act en 1997, inspirant d'autres États comme la Californie et le Vermont à légiférer dans ce domaine-là. Chaque pays et région, évidemment, aborde l'aide médicale à mourir différemment avec des nuances qui suscitent des débats éthiques et juridiques. Depuis le 11 juin 2021, la loi concernant les soins de vie permet à une personne en fin de vie qui a fait une demande contemporaine de recevoir l'aide médicale à mourir si elle devient inapte à consentir aux soins entre le moment où toutes les conditions sont satisfaites et celui de recevoir le soin. Des exigences particulières doivent être respectées pour recevoir l'aide médicale à mourir dans ce contexte-là. L'AMM est un sujet de débat qui suscite des discussions passionnées depuis plusieurs années. Au fil du temps, l'évolution législative a été impressionnante, avec des progrès notables dans de nombreux pays, chacun abordant la question à sa manière. Je vous parle de l'aide médicale à mourir aujourd'hui, non seulement parce que c'est un sujet qui est évidemment proche de mon cœur, mais c'est un sujet vaste et délicat qui soulève des questions complexes, notamment quand il est question de personnes handicapées ou de celles qui ne peuvent pas consentir. Le cas d'aujourd'hui touche à cette zone sensible où les décisions autour de la vie et de la mort pour les personnes en situation de vulnérabilité deviennent particulièrement complexes et controversées. Un cas qui, encore aujourd'hui, divise profondément l'opinion publique, soulevant des questions éthiques, juridiques et humaines essentielles. L'idée ici, c'est d'explorer ce sujet difficile avec tout le respect et la nuance qu'il mérite et surtout de mettre en lumière Tracy Latimer pour que son nom évoque bien plus qu'un simple débat. C'est une manière de se souvenir d'elle comme une personne à part entière, avec sa propre histoire et non juste comme un cas controversé. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont québec.ca, Wikipédia, CDC Online, Inclusion Canada, CBC News, PMC.gov, files.eric.ed.gov, UTPPublishing.com, The Canadian Encyclopedia.ca, OADD.org, Fernwoodpublishing.ca et CerebralPalsyGuide.ca. Tracy Latimer est née le 23 novembre 1980 à l'hôpital de North Battleford en Saskatchewan. Pendant l'accouchement, son cœur a cessé de battre et elle a cessé de respirer, ce qui a entraîné de graves lésions cérébrales dues au manque d'oxygène. Le personnel médical l'a réanimée, mais elle a commencé à avoir des crises. Une crise, ou seizure en anglais, c'est une perturbation soudaine et temporaire de l'activité électrique du cerveau. Cette perturbation provoque des symptômes variés selon les ondes cérébrales touchées, allant de mouvements incontrôlés des muscles, donc des convulsions, à des altérations de la conscience, des sensations inhabituelles ou même des comportements automatiques. Tracy a été transportée d'urgence en ambulance à l'hôpital universitaire Royal de Saskatoon où elle a été traitée pour réduire l'enflure de son cerveau et diminuer l'activité des crises. Robert et Laura Latimer ont ramené leur fille à la maison lorsqu'il est apparu que les crises étaient sous contrôle grâce aux médicaments. Après quelques mois, malheureusement, les crises ont recommencé et ont augmenté même en fréquence. Au cours des 4 années suivantes, les médecins ont utilisé divers médicaments pour les contrôler. Ils ont réduit les crises à 5 ou 6 fois par jour, le nombre que Tracy allait subir quotidiennement pendant le reste de sa vie. Par contre, les médicaments ont rendu Tracy léthargique et ont aggravé les dommages déjà causés aux fonctions vitales comme la respiration et la digestion. Tracy souffrait de paralysie cérébrale, comme j'ai dit, un trouble musculaire qu'elle a développé à la suite de l'interruption de l'apport d'oxygène à son cerveau. Sa forme de la maladie, c'était une des plus graves parce qu'elle touchait tout son corps. Elle était alitée, sans contrôle de ses membres et ses capacités mentales étaient celles d'un bébé de 5 mois à cet âge-là. Tracy ne pouvait pas parler, mais par contre, elle répondait à l'affection et elle souriait. Elle devait être nourrie à la petite cuillère, elle était en sous-poids et déshydratée en raison de vomissements fréquents et devait donc recevoir périodiquement des liquides et des nutriments par voie intraveineuse. Tracy était l'aînée de 4 enfants et vivait dans une ferme avec sa famille près de Wilkie en Saskatchewan. Elle a suivi un programme de développement dans la même école que ses frères et sœurs. Elle voyageait avec le reste des élèves dans l'autobus scolaire et disposait d'un fauteuil roulant spécialisé pour se déplacer. Parmi les activités qu'elle aimait à l'école, il y avait la natation, la musique et la zoothérapie. Elle aimait les journées et les événements spéciaux à l'école et passait beaucoup de temps à l'extérieur avec ses camarades. Tracy, dans le fond, c'était une petite fille pleine de joie de vivre. Elle aimait sa famille et aimait qu'on lui parle, qu'on la serre dans ses bras et qu'on la berce. Elle aimait plein d'activités, comme j'ai dit tantôt, mais surtout aussi les promenades, la musique, les promenades en traîneau et les rôtis de saucisse. Elle aimait regarder la télévision, en particulier les matchs de hockey, et elle adorait regarder les feux de joie de sa famille. Malgré ses nombreux problèmes de santé, Tracy semblait être une fille heureuse qui montrait ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas et souriait et riait avec les autres. À l'âge de 4 ans, Tracy a subi une opération chirurgicale pour soulager la tension musculaire de sa jambe gauche. Ça entraînait une forte douleur due à un mouvement involontaire de sa jambe droite. En raison des médicaments antiépileptiques, on ne pouvait pas lui donner d'analgésique plus puissant que le paracétamol. En passant, le paracétamol en Amérique du Nord, c'est plus connu sous le nom d'acétaminophène, donc le Tylenol. Et en ce qui concerne les interactions entre les médicaments antiépileptiques et certains analgésiques puissants, c'est une combinaison qui est assez risquée. Leur interaction peut provoquer des effets indésirables graves comme la dépression respiratoire ou une somnolence extrême parce qu'ils agissent tous les deux sur le système nerveux central. Ils peuvent aussi interférer dans le foie, altérant leur efficacité ou augmenter les effets secondaires. Bref, certains analgésiques peuvent accroître le risque de crise, ce qui complique leur usage pour les personnes atteintes d'épilepsie. À 9 ans, Tracy subit une opération pour équilibrer la pression musculaire, ce qui implique de couper des tendons et d'allonger des tissus. Elle développe ensuite une scoliose. Une scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale en courbe anormale. Souvent, c'est quand on se met sur le côté de la personne, le dos va littéralement faire une forme de S. Cette déformation-là peut et souvent cause des douleurs assez intenses, des déséquilibres et même des problèmes respiratoires si elle affecte les poumons. Les médecins ont partiellement corrigé cette courbure-là en attachant des tiges d'acier à la colonne de Tracy, mais les déséquilibres musculaires et les signaux anormaux de son cerveau ont provoqué des dislocations des hanches, lui causant des douleurs atroces. C'est indéniable que même dans les meilleures circonstances, cette intervention-là doit être considérée comme une intervention chirurgicale majeure, uniquement en raison de son intensité. Peu avant l'opération douloureuse de 9 heures, Laura Latimer se souvient d'avoir donné un bain à sa fille. Elle a dit: elle s'amusait et j'étais tout simplement mal parce que je savais ce qui allait arriver et elle ne le savait pas. Après l'opération, elle s'est réveillée en gémissant et en pleurant. Elle m'a regardée comme si elle demandait de l'aide. J'étais bouleversée. Un an plus tard, Tracy Latimer a été complètement récupérée de l'opération du dos qui l'avait laissée soi-disant raide comme une planche. Bien que catastrophiquement douloureuse, l'intervention a grandement amélioré la capacité à Tracy de s'asseoir, à voyager en autobus, en voiture et à digérer des aliments. Ces avantages-là substantiels pour la santé et le bien-être général de Tracy ont été amplement documentés par la propre mère de Tracy. Dans l'annexe de son livre en 1999, A Voice Unheard, The Latimer Case and People with Disabilities, Root Ends, cite de nombreuses entrées que Laura Latimer elle-même a faites dans le carnet de communication de Tracy au cours de l'année qui a suivi l'opération du dos de Tracy. Bon nombre de ces entrées de carnet de communication illustrent clairement les résultats positifs de l'opération. Je vais vous en lire simplement deux. Le 8 octobre 1992, on lit: Tracy était très joyeuse en entrant à la maison. Le 22 octobre 1992, Tracy a bien dîné et a mangé de la viande et des pommes de terre au coucher. À ce moment-là, les Latimer attendent leur quatrième enfant, un garçon qui est prénommé Lee. Au septième mois de grossesse, Laura, qui craignait que soulever Tracy puisse mettre en danger le bébé qui est à naître, surtout après une fausse couche 2 ans auparavant, a pris la décision difficile de placer Tracy dans un foyer de groupe, le Battleford Residential Services à North Battleford. Elle revient à la maison en octobre, mais Tracy pèse à peine 38 livres. Pendant ce temps-là, la Cour suprême du Canada rejette la contestation de Sue Rodriguez contre le code criminel. La Cour maintient que la légalité de l'article 241B du Code criminel qui interdit de fournir de l'aide au suicide, protégeant ainsi les personnes vulnérables contre les incitations à se suicider. Cette protection repose sur l'intérêt de l'État à préserver la vie. Suite à cette décision, le sujet de l'aide au suicide suscite de nombreuses réactions dans les médias.
Avant que tu continues, est-ce que tu peux juste me confirmer qui est Sue Rodriguez?
Avec plaisir. Dans les années 90, en fait, cette femme-là était atteinte de sclérose latérale amyotrophique, donc la SLA, la maladie de Lou Gehrig, si vous vous rappelez. Le Ice Bucket Challenge, c'était relié à la SLA. Son cas a atteint la Cour suprême du Canada qui a finalement rejeté en 1996 sa demande, citant la nécessité de protéger les personnes vulnérables contre l'influence d'autrui. La décision a solidifié l'interdiction d'assistance au suicide au Canada, mais elle a aussi lancé un débat national sur l'aide médicale à mourir. Cette décision a suscité un grand débat médiatique et a poussé à la question de l'aide médicale à mourir sur le devant de la scène publique canadienne. Et peu après, Sue Rodriguez a mis fin à sa vie en 1994 avec l'aide d'un médecin anonyme. Elle est restée une figure emblématique pour les partisans de l'AMM et a inspiré des réformes législatives dans les décennies qui ont suivi. Je vous parle de cette affaire-là parce qu'elle permet de mieux comprendre le climat social et juridique du Canada à l'époque et qui aide à saisir les débats et les tensions qui traversaient le pays au sujet de l'aide médicale à mourir, mais aussi parce que, personnellement, je trouve qu'on doit beaucoup à cette femme. Le 12 octobre 1993, Robert et Laura ont appris qu'une nouvelle opération était nécessaire pour leur fille Tracy. L'articulation de la hanche droite de Tracy et une partie du fémur devaient être retirées. Même si l'opération réussissait, son état se détériorerait et elle aurait probablement besoin d'une intervention chirurgicale sur la hanche gauche. Selon une étude faite par des chirurgiens orthopédiques, 90% des patients souffrant de douleurs avant l'opération ont vu leur douleur disparaître complètement ou de manière significative après l'opération. Là, je veux juste préciser qu'en ce moment, je parle d'un contexte médical et étudié. En plus de tout ce que je viens de dire, tous ceux ayant des problèmes d'assise ou d'hygiène ont rapporté une amélioration. Ces résultats-là correspondent à d'autres études antérieures comme celle de Knapp et Cortez, qui ont observé une réduction de la douleur chez les patients ayant subi une résection fémorale proximale. Ils ont apporté des améliorations notables chez des jeunes adultes et ont obtenu des bons résultats chez les patients atteints de paralysie cérébrale grave. En revanche, il y a un autre groupe qui a enregistré un faible taux de satisfaction après une résection, bien que les études justement à long terme sur cette intervention n'étaient pas aussi développées à l'époque de Tracy Latimer. La chirurgienne orthopédiste de Tracy a confirmé que l'opération était connue pour être généralement efficace. Les médecins rappelaient régulièrement au Latimer qu'il était possible d'installer une sonde de gastrostomie pour nourrir Tracy, mais pour eux, c'était hors de question. Une sonde gastrique, c'est un tube flexible qui est inséré directement dans l'estomac à travers l'abdomen par une incision. La sonde peut être utilisée pour administrer des liquides nutritifs, des médicaments ou de l'eau. C'est généralement posé de manière temporaire ou permanente selon les besoins du patient et c'est géré par des professionnels de la santé ou par les proches du patient par une formation adaptée. Après l'insertion, certains patients peuvent ressentir un léger inconfort comme une sensation de pression ou de brûlure, surtout si la sonde est utilisée sur une longue période. À long terme, le port de la sonde peut aussi entraîner des complications comme des infections, des irritations ou des blocages, mais ces problèmes-là peuvent être gérés par les soins appropriés. Les douleurs post-opératoires seraient intenses pour Tracy. Plus tard, lors du procès, il a été dit « Il y avait des preuves que Tracy aurait pu être nourrie par une sonde d'alimentation dans l'estomac, une option qui aurait amélioré sa nutrition et sa santé. » Et qui aurait également permis d'administrer des analgésiques plus efficaces. Les Latimer ont rejeté l'option de la sonde d'alimentation, la considérant comme intrusive et comme la première étape sur la voie de la préservation artificielle de la vie de Tracy. D'un côté médical, le temps moyen requis en salle d'opération pour cette procédure-là, c'est juste 35 minutes. De plus, il y a des études, dont celle de Grant en 1993 et celle de Fox en 1997, qui indiquent que les complications majeures liées à cette procédure représentent un taux de 12,4% et de 13%. Je pense personnellement que l'objectif des Latimer n'était pas de contester l'efficacité du tube gastrique pour Tracy, mais plutôt, comme je l'ai mentionné, qu'ils le voyaient comme la première étape vers la préservation artificielle de la vie de leur fille. Laura Latimer dira plus tard qu'elle avait dit à Robert qu'elle pensait que Tracy se porterait mieux si elle mourait. Je lui ai dit que j'aurais aimé que nous puissions appeler le Dr. Jack Kevorkian, qui était un pathologiste américain et militant pour l'euthanasie. Les Latimer étaient conscients que les enfants atteints de la maladie de Tracy avaient une espérance de vie courte. Selon le docteur Anaya Mendel, qui est pharmacologue clinicienne, un enfant atteint de paralysie cérébrale légère a 99% de chances d'atteindre l'âge de 20 ans, tandis que ceux avec une forme sévère, comme Tracy, ont 40% de chances. Une étude de la BMC Neurology montre que plus de 80% des personnes atteintes de paralysie cérébrale peuvent vivre jusqu'à 58 ans et plus. La paralysie cérébrale, c'est une condition permanente et non évolutive qui peut être gérée efficacement avec les bons traitements, même si elle ne s'améliore ni ne s'aggrave pas avec le temps. Robert pensait qu'en tant que père de Tracy, il avait l'obligation de la protéger de ce qu'il considérait comme une torture inutile. Le 24 octobre 1993, alors que Laura et leurs trois autres enfants étaient à l'église, Robert, alors âgé de 40 ans, a placé Tracy, 12 ans, dans la cabine de son camion. Il a passé un tuyau du pot d'échappement à la cabine et a démarré le moteur. Tracy a succombé sans douleur aux effets des gaz d'échappement. Laura n'aurait pas été au courant de l'acte de Robert. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a trouvé Tracy morte dans son lit. Elle a pensé que l'enfant était morte dans son sommeil. Les funérailles de Tracy Latimer ont eu lieu le 27 octobre 1993 à l'église United de Wilkie à Saskatchewan. 5 jours plus tard, la GRC a reçu des rapports toxicologiques révélant que Tracy était morte d'une intoxication au monoxyde de carbone. Lorsque la police a confronté Robert Latimer avec les preuves, et la police l'a mis en état d'arrestation et il a été accusé de meurtre au premier degré. Finalement, il a été libéré sous les conditions suivantes. Il ne doit pas quitter la province sans permission et s'abstenir de boire de l'alcool. Robert Latimer a cependant insisté sur le fait qu'il n'avait commis aucun acte criminel, chose qu'il insiste encore à ce jour. Le procès de Robert Latimer en novembre 1994 a attiré l'attention internationale. Le 16 novembre, un jury l'a reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Le juge l'a condamné à la peine minimale obligatoire, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. En février 1997, la Cour suprême du Canada a ordonné un nouveau procès au motif que le procureur avait falsifié le jury lors du premier procès. Le deuxième procès de Robert Latimer a commencé le 22 octobre 1997. Le juge et le jury étaient compréhensifs, mais la loi canadienne ne prévoyait aucune disposition de clémence dans un cas, entre guillemets, d'homicide de compassion. Robert Latimer a de nouveau été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Le juge du deuxième procès a estimé que la peine initiale était grossièrement disproportionnée par rapport à l'infraction et a accordé à Latimer une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire prononçant à la place une peine de 1 an de prison suivie d'un an de probation. Cependant, la Cour d'appel de la Saskatchewan et la Cour suprême ont confirmé la peine initiale. En janvier 2001, Robert Latimer a été incarcéré dans la prison à sécurité minimale de William Head près de Victoria en Colombie-Britannique. Sa demande de semi-liberté en 2007 a été refusée, mais elle a été accordée en 2008. Ses restrictions de libération conditionnelle ont été progressivement réduites et en décembre 2010, il a été libéré sous condition. C'est peu dire que le cas de Robert Latimer a été controversé. Ses sympathisants ont fait valoir qu'il avait toujours été un parent aimant et qu'il avait agi par compassion. Un sondage Ipsos réalisé en 1999 a révélé qu'une majorité de Canadiens étaient d'accord et souhaitaient qu'ils reçoivent une peine plus clémente. Les défendeurs du droit à une mort digne et clémente ont présenté le cas de Latimer comme une preuve solide que les lois canadiennes concernant l'euthanasie et le suicide assisté devaient être réexaminées. Comme l'a déclaré Howard Wallace, un fermier et voisin de la famille en 1997, Bob Latimer n'est pas un meurtrier et il ne présente aucune menace pour la société. C'est une honte de l'éloigner de sa famille et de l'enfermer. Cependant, les groupes de défense des droits des personnes handicapées ont exprimé leur profonde inquiétude quant au fait que la clémence judiciaire dans le cas des Latimer crée un précédent dangereux et met les personnes handicapées en danger. Ron Bourde, président provincial de la Saskatchewan Voice of People with Disabilities, a déclaré que Latimer n'avait pas le droit de mettre fin à la vie de sa fille. L'action de Robert Latimer a également été vivement condamnée, évidemment, par les groupes religieux. Certains ont dit, et je cite, « Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de soutien pour cet homme. Que quelqu'un d'autre décide que notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est ce qui est effrayant. » Robert Latimer a exprimé son point de vue aux journalistes après son deuxième procès, affirmant qu'en l'absence de tout moyen légal de mettre fin aux souffrances de sa fille, la décision de la tuer était la bonne. En 2011, lors de sa première entrevue publique à Radio-Canada depuis sa libération conditionnelle totale, il a dit que la mort de sa fille a été difficile, mais pas triste. Il a décrit ses nombreuses opérations chirurgicales et celles auxquelles elle aurait encore dû faire face, comme de la torture et de la mutilation. Lorsqu'on lui a demandé ce que Tracy elle-même aurait voulu, il a concédé qu'il était impossible de savoir. Il a dit « Vous n'avez pas de guide. Vous devez penser à ce qui se passerait si vous étiez enceinte. Que souhaiteriez-vous pour vous-même dans une situation comme celle-là? C'est assez clair, je ne voudrais jamais vivre une telle situation, et la plupart des Canadiens non plus. » L'accent a été mis sur le droit de vivre et le droit de mourir, mais malheureusement, une grande partie du débat a omis le point le plus important. Les enfants comme Tracy méritent et devraient avoir droit à des soins de santé adéquats, y compris la gestion de la douleur. Les détails de l'évaluation et de la gestion de la douleur de Tracy ne sont pas connus publiquement, mais tout ce que nous savons, c'est que son père estimait qu'elle souffrait beaucoup, bien qu'il existe de nombreux cas d'excellents soins, y compris la gestion de la douleur pour des enfants comme Tracy. La prestation de soins était si inégale au Canada à l'époque qu'il est exact d'affirmer que, en tant que groupe, les enfants atteints de maladies graves et débilitantes se sont systématiquement vus refuser des soins de santé suffisants. Les enfants comme Tracy présentent un risque élevé de douleur parce que leur état de santé peut provoquer des douleurs. Leurs traitements peuvent être douloureux. Ils peuvent avoir plus d'accidents. Leur comportement peut masquer l'expression de la douleur et de nombreux comportements qui sont des indicateurs de douleur typique chez d'autres peuvent être incohérents et difficiles à interpréter chez ces enfants. Seule une poignée d'études ont examiné la douleur dans cette population et les défis liés à l'évaluation de la douleur chez les enfants non-verbaux présentant des handicaps graves sont considérables. Les familles ayant des enfants atteints de conditions graves et invalidantes ont besoin d'une aide pratique, telle que des soins de répit et un soutien à domicile pour alléger leur fardeau. Les mères d'enfants ayant des problèmes de santé chroniques supportent une grande partie de la charge de soins et peuvent être particulièrement vulnérables à la dépression. Elles ont besoin de notre compréhension et de notre coopération. Il y a quelques années, la mort assistée restait strictement une option de fin de vie, un moyen pour les personnes dont la mort était en guillemets raisonnablement prévisible de mourir paisiblement avec de l'aide. Aujourd'hui, la loi a été modifiée et le suicide assisté est désormais disponible pour les personnes handicapées dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible. Les personnes marginalisées, confrontées à l'oppression systémique et à un manque de soutien adéquat, se retrouvent dans des situations où leur souffrance persiste. Dans certains cas, l'État facilite l'accès à des solutions de fin de vie, tout en étant perçu comme n'ayant pas satisfait à leurs besoins fondamentaux. Cette réalité-là pourrait s'étendre également aux personnes dont la condition médicale sous-jacente est une maladie mentale. Ainsi, lorsque les responsables élus discutent de la législation de l'aide médicale à mourir pour les mineurs matures, ils se posent la question de savoir s'ils doivent offrir la mort par suicide assisté aux mineurs handicapés et atteints de troubles mentaux qui ne sont pas en fin de vie. Ça inclut des populations particulièrement vulnérables, comme les jeunes autochtones. Un comité de députés et de sénateurs a récemment recommandé de rendre la MAD accessible aux mineurs matures uniquement dans des scénarios de fin de vie. Ce faisant, ils ont cité des experts affirmant que ça constituerait une première étape dans une, en guillemets, approche progressive nécessaire pour préparer les Canadiens à l'idée de voir des mineurs mourir par l'aide médicale à mourir. Encore à ce jour, les autorités attendent que le suicide assisté pour les mineurs matures handicapés devienne acceptable aux yeux des Canadiens. Aujourd'hui, je vais terminer l'épisode en parlant de Tracy. Comme beaucoup d'enfants, le dessert, c'était un de ses moments préférés du repas. Tracy, comme nous tous, avait aussi des préférences alimentaires. Les soupers qu'elle aimait le plus étaient ceux de la viande et des pommes de terre. Elle aimait aussi célébrer des fêtes comme l'Halloween. Une année, elle s'est déguisée en princesse et célébrer le temps des fêtes avec sa famille, c'était quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Quel petit enfant n'aime pas rendre visite à ses grands-parents? Tracy adorait ses grands-parents. Elle était toujours contente de les voir, surtout sa grand-mère. Et elle aimait être une petite fille, en plus d'être une fille, une sœur, une cousine, une camarade de classe, une élève. Elle aimait les party pyjama, la musique, les sorties, notamment au cirque où elle souriait quand elle voyait les chevaux passer. Une intervenante de l'école de Tracy a dit que Tracy ne pouvait pas communiquer verbalement, mais on pouvait voir à l'expression de son visage quand elle était mal à l'aise et quand elle était détendue et heureuse. On pouvait voir qu'elle aimait être tenue et embrassée par son regard détendu et par les petits sourires sur son visage. Et c'est comme ça que je vais finir l'épisode d'aujourd'hui. Je veux qu'on se rappelle de Tracy pour la personne qu'elle était.
Je vais juste dire merci pour l'épisode d'aujourd'hui parce que il y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans la pièce en ce moment. Il y a une grande énergie émotive qui s'émane de cet épisode-là. Puis je vais juste te remercier, Noémie, de nous l'avoir concocté. Et je vais te repasser le micro pour nous parler de l'organisation et de l'association qu'on veut partager aujourd'hui.
Aujourd'hui, je veux vous parler de la Fondation Papillon. La Fondation Papillon, c'est un organisme à but non lucratif. C'est un carrefour de ressources et de soutien pour les personnes en situation de handicap, pour leurs familles et pour les acteurs du milieu. Elle propose une gamme de services adaptés visant à aider les personnes avec des besoins particuliers à atteindre leur plein potentiel tout en répondant aux besoins de leurs proches. Elle se consacre au développement et au renforcement des compétences et des aptitudes de chacun et en offrant des services personnalisés qui s'adaptent aux besoins individuels. Par le biais de programmes et d'initiatives variées, la Fondation Papillon s'engage à créer un environnement inclusif où chaque personne peut s'épanouir. La vision de la Fondation Papillon, être un acteur de changement qui inspire et collabore à la création et à la société inclusive de demain pour les personnes en situation d'handicap. La Fondation Papillon offre plusieurs services adaptés comme des camps, un centre de jour pour 21 ans et plus, une garderie inclusive, la possibilité de location de chalets adaptés, des répits de fin de semaine permettant aux personnes en situation de handicap de profiter de fin de semaine de répit justement en pleine nature ou à la résidence Papillon et bien plus encore. Pour soutenir la Fondation, vous pouvez vous rendre sur leur site web directement. On a mis le lien sur notre beacon. Vous pouvez faire un don, du bénévolat ou bien participer à des événements comme celui du marché de Noël du Camp Papillon qui va se dérouler le 7, 8, 14 et 15 décembre 2024. Le Camp Papillon offre un marché de Noël où plus de 60 artisans et exposants se relaient durant les trois premières fins de semaine de décembre. Des activités festives pour toute la famille sont proposées comme une rencontre avec le Père Noël, des contes de Noël, des décorations, des jeux gonflables, un rallye dans la forêt enchantée, des tours de train, puis bien plus. C'est aussi possible de se restaurer sur place avec un repas à la cafétéria ou une bouchée à la cantine. L'accès au marché est gratuit et les activités sont payantes à la carte. Le site est évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite et, fun fact, cette année, le marché de Noël du Camp Papillon ajoute une nouvelle excitante, des spectacles, dont une performance de Martin Deschamps pour égayer encore davantage l'ambiance festive. Ça devrait vous tenter, allez-y, ça tente à tout le monde. Mais ce qui tente à tout le monde aujourd'hui, c'est, s'il te plaît Jess, un teaser pour la semaine prochaine.
La semaine prochaine, on ne va pas parler de Martin Deschamps, non, mais on va parler d'un cas bel et bien québécois. Et moi, en ce moment, je pense à une de mes amies qui est en train de passer son examen final au barreau, qui a travaillé tellement fort pour devenir une avocate de renommée mondiale. Et je me dis, hey boy, si jamais sa carrière était mise sur la sellette due à une potentielle affaire de meurtre, qu'est-ce qui se passerait? En tout cas, on va probablement, sûrement, définitivement en parler. Prochain épisode, ah!
Crème et cocktail.
Cheers, guys.
Cheers.